Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu de ce magazine, il y a l'Afropresse, l'actualité africaine commentée par les journaux allemands. Et Philippe Poyan est une nouvelle fois aux manettes ce soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et de quoi allez-vous nous parler ce soir ?
Eh bien, j'ai retenu deux thèmes dans la presse allemande cette semaine. D'abord, l'immigration, un phénomène qui, selon les experts, est appelé à prendre de l'ampleur, notamment de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Et puis, un autre thème, c'est l'eau. L'eau, une ressource qui peut rapidement devenir source de conflits.
Merci Philippe, et on se retrouve tout à l'heure dans la dernière partie de ce magazine.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Afrique 7 jours, c'est également Blogosphère, la tribune dédiée aux blogueurs africains. Sidiki Doumbia reçoit ce soir Jean-Régis Ndouimana, un blogueur burundais. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout le condensé des principaux sujets traités cette semaine par la rédaction. Et nous ouvrons par la Guinée où se tient aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle. On en parlait d'ailleurs largement tout à l'heure dans notre édition spéciale. Depuis le début de la campagne le 10 septembre dernier, eh bien des rixes ont éclaté entre militants de partis rivaux. Mohamed Camara, jury et analyste politique guinéen, accuse le pouvoir et l'opposition de manipuler leurs partisans dans le but de leur préparer leurs esprits respectifs.
Le pouvoir, pensant que sa réélection ne relevant que d'une simple formalité par erreur d'appréciation, bien entendu, l'opposition, à son tour, par erreur d'appréciation, estime que quand il n'y a pas d'alternance, c'est qu'il y a eu automatiquement fraude. Chacun noircit le tableau pour l'autre, et intoxique davantage l'esprit de ses propres citoyens, soit à l'effet de préparer le mental des militants du pouvoir à une sorte de réélection, ou simplement préparer le mental des militants de l'opposition à ne pas, par exemple, accepter les résultats s'il y a un certain nombre de fraudes.
Voilà le juriste et analyste politique guinéen Mohamed Camara. De la Guinée, nous nous arrêtons au Congo-Brazzaville et vous le savez déjà sans doute, le 25 octobre prochain, les Congolais se rendront aux urnes pour se prononcer sur une éventuelle modification de leur constitution. La campagne électorale pour ce référendum, elle a commencé vendredi dernier et devra s'achever le 23 octobre. Mais le projet de révision de la loi fondamentale suscite bien des réactions depuis son annonce. Brice Makosso coordonne la plateforme Tournons la page au Congo.
On ne peut pas demander au peuple congolais de se prononcer lorsque le peuple ne peut pas se prononcer librement et correctement. On a un fichier électoral qui est truqué et une commission électorale dépendante du Parti congolais du travail. Le président de la République veut juste se prémunir contre de possibles poursuites sur le plan international, dans le cadre par exemple des affaires de biens mal acquis. Donc c'est une constitution juste pour une personne.
Le coordonnateur de la plateforme Tournons la page au Congo, Brice Makosso. L'actualité cette semaine, c'est aussi le Burundi avec les découvertes macabres qui vont crescendo à Bujumbura, la capitale. À ces assassinats s'ajoutent des mauvaises conditions de détention dont seraient victimes des détenus, notamment les présumés poutistes de mai dernier dans la prison de Gitega dans le centre du Burundi. Maître Lambert Nsambimana est l'un des avocats de ces présumés poutistes.
Il y a des policiers très rudement armés qui font chaque fois irruption dans la prison et vraiment en les intimidant, en pointant pratiquement les armes sur eux, en voulant les séparer des autres prisonniers pour les faire subir vraiment des conditions carcérales très dures qui vraiment violent même les droits humains les plus élémentaires, à savoir l'isolement, ne pas pouvoir être en contact avec ses proches. Ça crée une situation de tension et parfois il y a même comme une confrontation entre tous les prisonniers, la police. On se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces actes d'intimidation, ces actes de harcèlement?
À l'instant, les inquiétudes de Maître Lambert Nsambimana, l'un des avocats des présumés auteurs du coup d'État avorté de mai dernier au Burundi. Nous terminons ce tour d'horizon de l'actualité africaine par le Sénégal, dont la capitale Dakar abrite depuis le 20 juillet le procès de Hissène Habré. L'ex-dictateur tchadien, rappelons-le, surnommé le Pinochet africain, n'a pas que des ennemis. Il s'est en effet lié d'amitié avec de nombreux Sénégalais pendant son exil dakarois. Parmi eux, Youssouf Tchoune, le responsable du mouvement des jeunes notables de Wakam.
Lorsqu'il fallait engager les travaux d'agrandissement de la grande mosquée de Wakam, il a beaucoup contribué financièrement. On prie ensemble, Korité et Tabaski. Je l'ai toujours vu à côté de moi, ou derrière moi, ou devant moi, tous les ans.
Youssouf Tchoune, le responsable du mouvement des jeunes notables de Wakam. Wakam, c'est l'un des quartiers résidentiels de Dakar, la capitale sénégalaise. Et Youssouf Tchoune, que vous venez d'écouter, s'est battu contre la tenue du procès de Hissène Habré, l'ex-homme fort de N'Djamena. Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle depuis nos studios de Bonn en Allemagne. Dans un instant, nous retrouvons, comme promis, Jean-Régis Ndouimana, le blogueur burundais. Il est interrogé par Sidiki Doumbia et c'est bien sûr dans la rubrique Blogosphère.
Blogosphère.
Jean-Régis Ndouimana, bonsoir.
Bonsoir.
Le mardi 6 octobre dernier, Eloi Ndoumira, le handicapé physique tué deux jours plus tôt, a été inhumé à Bujumbura. Les images de son assassinat ont circulé sur Internet via les réseaux sociaux. Ça vous a choqué, ces images?
C'était vraiment choquant, d'autant plus que c'était vraiment un civil, un innocent, quelqu'un qui n'a rien à voir avec les belligérants qui étaient sur le terrain, soit que ce soit des manifestants armés, du côté des manifestants armés, ou bien des gens qui attaquaient, ou je ne sais pas. Tout simplement, c'était un citoyen innocent, macabrement assassiné. Ça a vraiment choqué tout Bujumbura.
Comme Eloi Ndoumira, beaucoup d'autres Burundais sont froidement assassinés quasiment tous les jours à Bujumbura. Avez-vous une idée sur les auteurs de ces assassinats souvent cruels?
Il faut vraiment recouper les informations et les sources d'informations surtout, parce qu'il y a déjà des gens qui sont armés à l'intérieur de certains quartiers, anciennement protestataires. Il y a aussi la police qui utilise une force disproportionnée en tirant à balles réelles. Il y a aussi les milices des Imbonerakure qui travaillent en connivence avec la police. Alors, pour le cas présent de Eloi, les témoignages recueillis à Chibitoke ont bel et bien signalé la présence des Imbonerakure lors de cette tuerie. Alors, d'autres sources indépendantes affirment que ce genre d'assassinat s'inscrit dans le cadre de l'opération dite Kamwe Kamwe, donc s'agissant du pouvoir en place qui assassine les gens grâce à sa police et cette milice par fréquence de deux personnes, trois personnes ici, trois personnes dans notre quartier, trois personnes l'autre semaine, cinq personnes, une personne, mais ça devient un génocide systématiquement organisé qui s'abattent actuellement sur les gens qui disent non au troisième mandat. Ce n'est pas pour autant facile à vérifier, mais les témoignages rendent compte de la présence de tel ou tel autre cas en marge d'une quelconque confrontation, et ça peut aider à définir qui aura été l'auteur de telle scène macabre, de tel assassinat.
Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle, parce qu'on se rend compte que les découvertes macabres se multiplient à Bujumbura?
Oui, certainement, parce que Aujourd'hui, il n'y a plus de médias, les médias traditionnels ne sont pas là. Il y a un seul média qui est un média d'État, la Radio-Télévision Nationale du Burundi, et qui ne fait que relayer l'information de l'État et les dires et les versions de l'État. Mais quand il s'agit des meurtres, quand il s'agit des gens qui sont ramassés, des corps ramassés dans des caniveaux comme ça, ce sont les habitants, les témoins qui recueillent les premières informations, soit les gens qui ont été aperçus, les suspects, soit même le corps, où, et là, ils balancent sur le réseau le plus informatif pour le moment, c'est WhatsApp. Et quand ça tombe dans WhatsApp, mais aussi ça tombe sur les Twitter et Facebook. Alors, les nouveaux médias sont les seuls aujourd'hui canaux d'information les plus utilisés pour rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, puisqu'il n'y a plus de médias. Alors, les alertes viennent des réseaux sociaux, mais aussi des témoignages de ces scènes macabres viennent de ces réseaux sociaux.
Que pensez-vous de la mutinerie dans la prison de Gitega, dans les centres du pays, surtout de la tentative d'isolement des présumés putschistes des mains de rien?
Alors, cette mutinerie-là, c'est aussi une autre scène macabre parce que, jamais vu où la police, les forces de maintien de sécurité s'investissent dans ce genre d'entreprise où ils doivent refouler les prisonniers dans de petites cellules à quatre, sans vraiment ce qui ne remplissent pas le minimum de conditions carcérales. Alors là, cette mutinerie-là, les prisonniers ont voulu se défendre. Dieu merci, certains médias, certains observateurs ont été là pour rapporter ce qui se passait réellement. Sinon, le pire allait arriver. Tout le monde le sait. Certains généraux étaient visés. Les témoignages depuis l'intérieur et les sources policières le racontent. Il y avait des missions particulières d'assassiner les prisonniers suspects putschistes. Jusque-là, suspects putschistes. Et tout le monde a décrié cette opération, tout en espérant que la police, la nouvelle brigade anti-émeute ne va pas aller au-delà de ce qu'ils ont comme droit, du moins d'assassiner ces gens-là. Alors tout le monde a cet espoir-là, mais au Burundi, les gens commencent à s'amuser à dire que la durée de vie, l'espérance de vie est de 24 heures. Alors on ne sait pas ce qui arrivera demain ou le lendemain, d'où il faut que les médias, les observateurs internationaux doivent de suivre de près la situation au Burundi.
Jean-Résine Douimana, merci.
Merci beaucoup à vous.
Il est maintenant l'heure de passer à l'Afropresse, l'actualité africaine vue par nos confrères de la presse allemande. Et Philippe, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on ouvre par l'immigration, un phénomène qui, de la vie des experts, est appelé à prendre de l'ampleur, notamment immigration venant donc de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe.
Tandis que l'Allemagne discute d'une limitation de l'afflux de réfugiés sur son sol, les experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international prévoient, eux, une immigration massive sur le long terme des pays pauvres vers les pays riches. C'est ce que rapporte le quotidien berlinois Berliner Zeitung. Une migration de grande envergure qui, au moins pendant plusieurs décennies, fera partie intégrante d'une économie globalisée. Plus de 90% des pauvres de la planète vivent dans relativement peu de pays où la population croît fortement, contrairement aux offres d'emploi. Ceci vaut particulièrement pour l'Afrique subsaharienne, où la plupart des pays connaissent à la fois une grande pauvreté et une forte croissance démographique. Plus des trois quarts de la croissance économique globale sont réalisés chez les nations riches, dont la démographie, elle, décline. Aujourd'hui déjà, un être humain sur sept vit en Afrique, bientôt ce sera 1 sur 4. Il est clair que tant que la plupart des habitants d'une aussi grande région n'auront pas accès à un minimum de prospérité, l'immigration restera très forte. Le quotidien berlinois conclut que les nations riches, avec leurs populations actives déclinantes, doivent accueillir les jeunes populations des régions pauvres, pauvres sur le plan économique, mais riches sur le plan démographique. L'Europe, comme l'Afrique, en profiteraient toutes les deux, conclut l'éditorialiste.
L'autre thème, Philippe, concerne l'accès à l'eau, une ressource qui peut rapidement devenir source de conflits.
Oui, l'OTAN vient de lancer de grandes manœuvres, les plus vastes depuis la fin de la guerre froide. Dans ce war game, ce scénario de guerre, tout donc tourne autour de l'eau potable, notamment en Afrique. 3000 soldats allemands et pas moins de 33 000 autres soldats de tous les autres pays membres de l'Alliance Atlantique et de 7 pays partenaires participent jusqu'au 6 novembre prochain à ces manœuvres baptisées Trident Juncture. C'est ce que rapporte le quotidien Neues Deutschland. Ces manœuvres se déroulent en Italie, en Espagne et au Portugal, ainsi que dans leurs eaux territoriales en Atlantique et en Méditerranée. Plus de 130 avions et une soixantaine de navires y prennent part, sous le commandement d'un Allemand, le général Hans-Lothar Domröse. Lors de ces manœuvres, l'OTAN a dressé un scénario de crise qui concerne l'Afrique, donc, et met en scène plusieurs pays africains fictifs. Les agresseurs d'un pays baptisé Kamon envahissent le pays voisin Lakuta et en chassent la population. Puis un pays tiers du nom de Titan est impliqué dans le conflit. Il s'agit d'une guerre pour l'eau dans la région Serrasia qui souffre de la désertification et où les sols de plus en plus arides provoquent la famine. Les agresseurs visent d'importants barrages au Lakuta. Ce conflit entraîne des vagues de réfugiés, des épidémies se propagent. Pour couronner le tout, des pirates menacent les navires et les voies commerciales vers l'Europe. Le conflit régional menace de s'élargir. Il y a des cyberattaques et d'autres attaques à l'arme chimique, tandis que la propagande de guerre bat son plein. Inconsciemment, conclut l'éditorialiste, on pense là à la Syrie, à la Somalie, au Soudan du Sud, ou à bien d'autres encore.
L'or bleu qui risquerait donc d'être source de conflits, on ne le souhaite pas. Merci Philippe Poyan pour avoir donc signé l'Afropresse et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et c'est ici que s'achève Afrique 7 jours. Merci à tous pour votre fidélité. Eric Topona à la présentation. Je vous laisse en compagnie du reste des programmes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Et à la semaine prochaine. Lulu ti fe lulu ye bana alubi di mo to tima.